Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième numéro de Sans langue de bois, votre nouvelle émission politique sur les ondes de Transistor. Deuxième édition également du magazine politique de la rédaction. Et c'est Thomas qui vous en dévoile le programme. Bonjour Thomas.
Bonjour Marie-Ève et bonjour à tous. À la une de l'actualité politique cette semaine, le budget 2013 de l'État présenté par Jean-Marc Ayrault la semaine dernière et qui comprend 16 milliards de prélèvements supplémentaires. Budget d'austérité ou budget de relance, les avis divergent, éléments de réponse avec une synthèse réalisée par Colline Allier. L'enquête de la semaine réalisée par Mathilde Ferrez sera consacrée à l'expression « racisme anti-blanc » employée par Jean-François Copé dans son livre « Manifeste pour une droite décomplexée ». Nous analyserons la stratégie politique du maire de Meaux qui se cache derrière l'utilisation de cette expression polémique, pourtant loin d'être nouvelle. Dans le reste de l'actualité politique, nous évoquerons également la stratégie de communication de François Hollande qui, pour redorer son image et remonter dans les sondages, entend faire preuve d'autorité. Et une question, Hollande fait-il du Sarkozy ? Enfin, nous nous intéresserons à la mesure dont tout le monde parle, la décision la plus importante de cette rentrée, la hausse de la taxe sur les bières. Sans oublier la rubrique « Droit de suite » et deux éditoriaux, cette semaine proposés par Amos Reichmann et Thibaut Sardier.
Ça y est, on doit se rendre à l'évidence, un nouveau quinquennat a véritablement commencé.
Depuis le vendredi 28 septembre, le plan budgétaire prévu par le gouvernement pour l'année 2013 et les suivantes a en effet été adopté par le Conseil des ministres. Budget 2013, Kézako, un sujet préparé par Colline Allier.
Le budget 2013 suscite beaucoup de réactions sur la scène politique.
Il faut dire que le gouvernement a de grandes ambitions. Faire passer la dette publique de 4,5% du PIB à 3% d'ici à l'année prochaine.
Ainsi, le mot « austérité » se lit sur toutes les lèvres.
Oui, 30 milliards d'euros seront nécessaires à l'atteinte d'un tel objectif. Ils seront prélevés équitablement sur les ménages les plus aisés, ce qui est estimé à environ 10 milliards d'euros de recettes. Sur les grandes entreprises, évidemment, disposant de plus grandes marges de manœuvre, en préservant les petites et les moyennes. Et enfin, seront faits 10 milliards d'euros d'économies de la part de l'État, en favorisant les secteurs prioritaires comme l'éducation, l'emploi et la justice.
Mais pour réaliser pleinement son redressement financier, le gouvernement prévoit aussi d'augmenter les taxes.
Parmi les taxes et autres prélèvements qui vont augmenter, citons la taxe sur le tabac et celle sur la bière dont nous reparlerons plus tard dans l'émission, ou encore la redevance télé.
Les taxes sont en hausse donc, mais il y a aussi des coupes budgétaires au programme.
Exactement Marie-Ève. Du côté du budget ministériel, il y aura une baisse générale des crédits de fonctionnement, moins 5% en moyenne. Grand perdant de cette réforme, le ministère de la Défense, qui verra ses crédits diminuer de 2,2 milliards d'euros et une suppression de 7 000 de ses postes.
Cette décision est pointée du doigt dans un contexte où des pays comme la Syrie ou Chypre s'arment encore massivement. Néanmoins, il ne faut pas oublier que la défense occupera quand même près de 30 milliards d'euros dans le budget annuel de l'État et elle sera ainsi en deuxième position, juste derrière l'éducation nationale.
En parlant d'éducation, justement, le ministère de l'Enseignement supérieur se voit allouer 520 millions d'euros de crédits supplémentaires avec des efforts particulièrement sur les logements étudiants. Tandis que le ministère de l'Éducation nationale pourrait recruter plus de 43 000 personnes dans l'année à venir avec plus de 10 000 créations de postes.
Le ministère de la Justice profite également du label prioritaire estampillé gouvernement Ayrault et sera en mesure de créer un millier de postes pour l'année à venir, dont 200 d'entre eux iront à la protection judiciaire de la jeunesse.
À l'issue de l'annonce de ce budget 2013, le président de la République a en effet réaffirmé les priorités et les secteurs prioritaires qu'il avait déjà évoqués lors de la campagne présidentielle. Je cite « Le redressement du pays passera par l'effort fait sur l'éducation, la justice, l'emploi et le logement. Ces priorités sont les conditions pour une vie meilleure. »
À l'UMP, on ne s'exprime pas dans les mêmes termes, figurez-vous. Et à l'effort présidentiel, on oppose le matraquage fiscal de ce budget, notamment auprès des classes moyennes, qui verraient encore leur pouvoir d'achat se restreindre.
Gilles Carré, député UMP du Val-de-Marne et président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, déplore en effet que le gouvernement ait choisi le tout fiscal, le tout augmentation d'impôts. Et il continue, jamais on n'aura infligé ni aux ménages ni aux entreprises un tel choc fiscal. S'il adhère à l'objectif de réduction du déficit public, il estime qu'il s'agit d'un budget complètement à court terme, sans aucune vision. Il ajoute, il n'y a rien sur la compétitivité des entreprises alors que ça devrait être l'urgence majeure.
Du côté du front de gauche, Nicolas Sansu, député PCF, se montre dubitatif. Je cite, Même si nous approuvons la stratégie fiscale qui vise à remettre de la justice et de la progressivité dans les impôts prélevés, nous estimons que notre peuple va souffrir de la prédominance des marchés financiers sur notre économie, en même temps que notre pays risque de plonger dans la récession.
Évidemment, du côté du PS, ce n'est pas le même son de cloche. Bruno Le Roux, président du groupe à l'Assemblée, salue quant à lui un budget de combat qui s'attaque aux causes de la crise économique et sociale que la droite a léguée. Surendettement de l'État, désindustrialisation, gaspillage de l'argent public. Il relève surtout qu'il s'agit d'un budget de gauche à la fois sérieux et tout entier tourné vers le retour de la croissance et de l'emploi. C'est un budget sincère, dit-il, qui ne cache pas les efforts demandés, mais protège le pouvoir d'achat des classes populaires et moyennes et répartit l'effort à la mesure des moyens de chacun.
Jean-Marc Ayrault, de son côté, a clairement annoncé lors de son apparition sur « Des paroles et des actes », l'émission politique de France 2 diffusée le 27 septembre dernier, que la rigueur imposée au pays ne durerait que jusqu'en 2014.
Il ne reste qu'à espérer que la croissance sera au rendez-vous pour réduire la dette fiscale. Il faudrait une augmentation de 0,8% du PIB pour parvenir à cet objectif. Or, la plupart des commentateurs économiques dans les médias réfutent cette possibilité et émettent donc des réserves vis-à-vis du plan budgétaire pour 2013.
Les inquiétudes, les incompréhensions et les critiques du budget 2013 font écho à la baisse de confiance et de popularité qui frappe en cette rentrée le duo de l'exécutif Jean-Marc Ayrault et François Hollande.
Selon un sondage IFOP réalisé par le Journal du Dimanche et publié fin septembre, la cote de popularité de François Hollande est en effet descendue à 43%, son plus bas score depuis sa nomination le 6 mai dernier.
Pour enfoncer le clou, on peut rappeler que seul Jacques Chirac, après la victoire du non au référendum de mai 2005, et le général de Gaulle, après les accords d'Évian en 1962, avaient fait pire en un seul mois.
Le chef de l'État perd en effet 11 points par rapport au mois d'août dans sa cote de popularité, tandis que son Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, chute de 7 points, passant à 50% des satisfaits.
Bref, il faut redresser la barre d'urgence. Et pour cela, le chef de l'État a adopté ces dernières semaines une attitude qui en rappelle étrangement une autre.
Il est presque 20h, lundi 2 octobre, quand François Hollande et son ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, arrivent à la Villeneuve, quartier sensible des Chirolles, dans la banlieue de Grenoble. 3 jours plus tôt, au même endroit, Kevin et Sofiane, tous deux âgés de 21 ans, étaient massacrés, selon les termes même du ministre de la Place Beauvau, lors d'une rixe.
La visite se déroule comme prévu, jusqu'au moment où une habitante du quartier interpelle le président de la République et lui lance « C'est devenu le Texas ici !» et d'ajouter que les habitants du quartier ont le droit à la sécurité, ce à quoi le chef de l'État rétorque « C'est ce que je suis venu leur apporter, sécurité, justice et réussite. »
Une visite symbolique et stratégique donc. Le chef de l'État veut prouver sa réactivité, alors que beaucoup lui reprochent de ne pas aller assez vite. Et il veut asseoir son autorité en matière de sécurité, alors que la droite a toujours reproché à la gauche son angélisme en la matière.
Il y a pourtant comme un air de déjà-vu.
Exploitation d'un fait divers tragique, visite sur le terrain, dans un quartier sensible et avec une myriade de caméras, affirmation de l'autorité de l'État et de la nécessité du retour à l'ordre. Et si François Hollande faisait du Nicolas Sarkozy ?
Sur la forme, la venue nocturne de François Hollande à Échirolles rappelle en effet les visites de Nicolas Sarkozy en banlieue lorsque ce dernier était ministre de l'Intérieur.
En juin 2005, rappelez-vous, Nicolas Sarkozy se rendait à la cité des 4000, à la Courneuve où Sidi Ahmed Amach, 11 ans, avait été tué par balle.
Une ressemblance que nombre de médias, de commentateurs de la vie publique et d'hommes politiques, surtout de droite, n'ont pas manqué de relever et de railler.
Sauf que, si sur la forme et du point de vue de la stratégie politique, des ressemblances troublantes existent, le contexte, le style et le fond diffèrent.
Le contexte d'abord.
Oui, alors que François Hollande a été très bien accueilli par les habitants du quartier de la Villeneuve, quand Nicolas Sarkozy, lui, était allé en 2005 à Argenteuil, il avait été accueilli sous les huées. Du coup, là où le style de François Hollande à Échirolles s'est voulu protecteur, rassurant, apaisant, un brin paternaliste, le vocabulaire du ministre de l'Intérieur qu'était Nicolas Sarkozy en 2005 avait été, au contraire, agressif et tranchant, usant de formules chocs et polémiques, restées encore aujourd'hui dans les mémoires, rappelez-vous.
Dès demain, on va nettoyer au Karcher la cité. On y mettra les effectifs nécessaires et le temps qu'il faudra, mais ça sera nettoyé, avait-il lancé. Face à quelques jeunes, il avait même expliqué, droit dans les yeux, sur un ton ferme, « Ceux qui ne respecteront pas la loi, on les tapera dur ». Ceux qui veulent s'en sortir, on les aidera fort.
Bref, à Argenteuil, Nicolas Sarkozy avait été clivant. À Échirolles, François Hollande s'est voulu rassembleur.
Mais la différence tient surtout au fond.
En effet, Marie-Ève, que reprochait-on à Nicolas Sarkozy quand il se rendait dans les quartiers pour exploiter un fait divers ? De prendre la mesure de drames qui avaient marqué la population française dans son ensemble ? De venir témoigner aux familles ses condoléances et à travers les siennes, celles de la France ? De réaffirmer la présence de l'État ? Certainement pas. Mitterrand et Chirac l'avaient fait avant lui, c'est également ce qu'a fait François Hollande à Échirol. Que reprochait-on alors à Nicolas Sarkozy ? Son omniprésence ? Peut-être. Mais quand aujourd'hui les journalistes reprochent au président sa lenteur et son impuissance, on se dit que ce ne devait pas être le fond du problème.
Alors, qu'est-ce qui n'allait pas ?
Ce qu'on reprochait à Nicolas Sarkozy, c'était la rafale d'annonces sans suite qui l'accompagnait. Si l'insécurité avait baissé pendant son quinquennat, personne n'aurait pu reprocher la mise en scène et l'utilisation du pathos. Or, à Échirolles, François Hollande, lui, n'a pas annoncé une énième réforme du code pénal, une énième loi sur la lutte contre la délinquance. Cependant, même avec des différences de fond, la communication spectaculaire de François Hollande et de Manuel Valls sur ces questions sera sévèrement jugée, et à juste titre, s'il n'y a pas vraiment et rapidement une amélioration de la sécurité dans ces quartiers.
Nous vous le disions tout à l'heure en présentation, nous accueillerons à chaque numéro deux éditorialistes aux sensibilités différentes, voire radicalement opposées, pour que toutes les opinions s'expriment sans langue de bois.
Dans le précédent numéro, vous avez découvert la voix, le ton et le regard politique de Caroline Bouchier et de Louis Dubost. Nous accueillons aujourd'hui Amos Reichmann, qui s'intéresse lui aussi au fantôme de Nicolas Sarkozy, qui ne plane pas, vous allez le voir, exclusivement au-dessus du déplacement de François Hollande à Échirolles. Bonjour Amos.
Bonjour Thomas, très content de te retrouver pour cette nouvelle année.
Et de même, avec plaisir.
Un spectre hante la France. Le spectre de Nicolas Sarkozy. On croyait l'enfant de Neuilly rangé, qu'il avait tiré sa référence politique un soir de mai 2012 à la Mutualité, après l'un de ses seuls vrais discours de président de la République, discours de rassemblement, d'amour sincère à cette France qui lui avait permis de réaliser ses plus grands rêves. Ce soir-là, alors que la Bastille de la gauche française exultait, il aurait pourtant pu rentrer un peu plus dans l'histoire. Un nouveau sacre, place de la Concorde, 5 années supplémentaires, Sarkozy, encore, toujours, sur tous nos écrans. Mais non, les Français en avaient décidé autrement, voulant se débarrasser de cet omniprésident, plus qu'il n'aspirait à adouber la gauche molle. Le 6 mai 2012, Sarkozy semble donc prendre acte, prêt à redevenir, comme il le disait, un Français parmi les Français. Un été plus tard, François Hollande n'a convaincu personne. Sa cote de popularité est en chute libre, le chômage augmente, les usines ferment, la capacité du président à gérer la crise laisse plus que jamais perplexe. Le théoricien de la présidence normale semble s'être principalement attelé à faire oublier son imposant prédécesseur. Au Fouquet's répondait l'accordéon de Tulle, au médiatique yacht de Bolloré, le non moins médiatique TGV direction Brégançon, à l'affichage permanent la discrétion mesurée, à Carla, Valérie, et tout le reste est twitterature. Reste qu'à trop vouloir se construire contre Sarkozy, c'est l'ombre de l'ancienne hôte de l'Élysée qui n'en apparaît que plus menaçant. C'est que la vie politique française n'a pas encore fait le deuil de Nicolas Sarkozy. Ainsi Manuel Valls, 5% aux primaires socialistes. Dois-je le rappeler, seul un certain Jean-Michel Baylet avait fait pire. Le fougueux catalan s'est ensuite rendu indispensable au candidat Hollande. Bien lui en a pris. Ministre de l'Intérieur, alors qu'on attendait de la part des socialistes des mesures radicales et promises, comme le droit de vote des étrangers aux élections locales, c'est bien du sarkozysme mal réchauffé que nous sert Manuel Valls. Dans la forme, on retrouve les accents du Sarkozy ministre de l'Intérieur, présent partout, premier flic de France, biscotto en avant, et cette fâcheuse tendance à tout ramener à soi. Quand on regarde le fond, c'est à se demander si les fantômes de la troïka brune Sarkozy-Guéant hortefeux ne sont pas encore aux manettes. En effet, quelle différence quant au traitement des Roms ? Quelle différence quant à la médiatisation sidérante donnée aux interventions contre les milieux intégristes musulmans ? C'est là que le fond rejoint la forme. Et je ne sais pas si vous en souvenez, mais c'était déjà Manuel Valls qui réclamait il y a quelques années qu'on installe dans sa belle ville d'Évry, je cite, « quelques blancs, quelques whites, quelques blancos ». Valls polyglotte, certes, bravo, mais avant tout, Valls suintant la dégénérescence sarkozyste. Singulièrement, le ministre de l'Intérieur est le plus populaire du gouvernement, le plus apprécié des citoyens. Comme si, au fond, les Français voulaient du Sarkozy mais sans Sarkozy. Et que dire de la situation à droite ? La guerre picrocolline que se livrent Jean-François Copé et François Fillon apparaît plus que jamais dérisoire. Elle rappelle deux vautours claudiquants cherchant à se nourrir d'un cadavre qui se rirait bien d'eux. Sarkozy avait eu le mérite acrobatique de construire une union allant de la droite populaire à la droite sociale, des petits frères du lepénisme aux voisins du centrisme. À trop se rapprocher de l'extrême droite, Sarkozy s'est perdu. Mais il n'en reste pas moins que 5 années durant, il a organisé avec brio le grand écart de la droite française, de Jean-Louis Borloo aux anciens d'Occident. Mais n'est pas Sarkozy qui veut. Et sauf des routes socialistes, on voit mal les actuels prétendants de l'UMP capables dans 5 ans de reprendre l'Élysée. Alors, dans les sections UMP, lorsque la tentation lepéniste n'emporte pas tout sur son passage, on se prend à rêver. Et s'il revenait ? S'il n'y avait que lui, Nicolas, Nicolas ! Et effectivement, aujourd'hui, le muet des beaux quartiers peut être le meilleur adversaire de François Hollande, son seul véritable opposant. Situation d'autant plus étrange qu'il y a à peine 6 mois, les Français ont refusé de réélire l'agité de l'Élysée, principalement parce que sa personnalité était devenue insupportable à une majorité. C'est à se demander si en 2012, les Français ne voulaient pas la reconduction d'une politique sarkozyste, mais sans Sarkozy. Et c'est à se demander si déjà, en septembre 2012, en octobre, ils ne regrettent pas leur bourreau d'hier. Douce France, cher pays de paradoxe.
Merci Amos. Il est temps de passer à l'enquête de la semaine. On passe maintenant à l'enquête de la semaine consacrée à une expression polémique employée par Jean-François Copé dans son livre « Manifeste pour une droite décomplexée ». Cette expression, c'est « racisme anti-blanc ». Nous analyserons la stratégie politique du maire de Meaux qui se cache derrière l'utilisation de cette expression polémique, loin d'être nouvelle pourtant. Une enquête réalisée par Mathilde Férez. Réédition version UMP du 7e numéro de la série des Astérix, Le combat des chefs. Et coup de tonnerre de Zeus, Jean-François Copix parle de racisme anti-blanc.
Blancheur et tremblement, une enquête de Mathilde Férez. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Ça bouge à l'UMP. La bataille pour la présidence du parti a bel et bien commencé.
Jean-François Copé et François Fillon seront les deux seuls candidats à s'affronter pour conquérir le parti lors du prochain congrès le 18 novembre. En effet, eux seuls ont été en mesure de déposer mardi 18 septembre les 7924 parrainages requis pour être qualifiés.
Les stratégies se mettent dès lors en place.
François Fillon joue en effet les rassembleurs en usant d'un propos relativement modéré. Il refuse d'user de la tactique buisson de la campagne présidentielle qui consistait à empiéter sur les territoires de l'extrême droite. En revanche, Jean-François Copé n'hésite pas à la prolonger. Dans son manifeste de campagne paru le mercredi 3 octobre, manifeste pour une droite décomplexée, il reprend un concept communément associé au discours d'extrême droite, le racisme anti-blanc.
En choisissant d'utiliser le concept de racisme anti-blanc, Jean-François Copé se place dans une lignée idéologique sans équivoque.
Dans une interview au journal du dimanche, le 26 septembre dernier, Sylvain Crépon, sociologue spécialiste de l'extrême droite, précise la genèse de la notion.
Elle serait en effet apparue pour la première fois en 1978 sous la plume de François Duprat, alors responsable au Front National. À ses débuts, l'expression se rapportait essentiellement aux Français. Anti-blanc signifiait anti-français. C'était une manière d'insister sur la préférence nationale, thème cher au Front National. Seulement, comme aujourd'hui blanc ne coïncide pas nécessairement avec français, le terme a été adapté. Il n'empêche, l'idée principale demeure, le prétendu étranger se permettrait de rejeter l'autochtone.
En tout cas, le concept connaît de vraies heures de gloire à droite de l'échiquier politique.
Tout d'abord, il fait partie des thèmes classiques du Front National.
Jean-Marie Le Pen l'a mis en avant plusieurs fois lorsqu'il était président du parti. Marine Le Pen en use pour discréditer la lutte des associations antiracistes qui laisseraient de côté cette forme de racisme. En outre, de nombreux groupes proches de l'extrême droite, tels que les Jeunesses Identitaires ou la GRIF, l'Alliance Générale contre le Racisme et pour le Respect de l'Identité Française et Chrétienne, n'hésitent pas à employer le terme. Il a même été prétexte à des campagnes nationales d'autocollants, en réponse à celles menées par SOS Racisme.
Toutefois, des personnalités de gauche se sont parfois également emparées de l'expression.
En 2005, Bernard Kouchner et Jacques Julliard ont signé l'appel contre les ratonnades anti-blancs suite à des violences commises lors de manifestations lycéennes. Dernièrement, c'est Najat Vallaud-Belkacem qui a employé le terme dans son ouvrage de campagne « Raison de plus ».
Bien entendu, elle affirme donner un tout autre sens à l'expression.
En effet, sous sa plume, le propos ne tend pas à réactiver l'idée d'une race supérieure, mais à mettre au jour une réalité sociale, celle de tensions entre diverses strates de la société, provoquées par des inégalités préexistantes.
L'utilisation par Jean-François Copé de cette expression n'a cependant pas été comprise comme la simple dénonciation d'un problème social. Les remous provoqués à l'UMP en sont la preuve.
Si beaucoup de membres de l'UMP s'accordent à reconnaître la réalité d'un racisme à l'égard des Blancs ou Français, certains sont tout de même plus réticents à exploiter l'expression de racisme anti-blanc.
Pour deux raisons surtout. Tout d'abord parce qu'elle serait une réappropriation patente d'un concept né à l'extrême droite. Puis, parce qu'en temps de campagne, il faut s'engager et se démarquer de l'adversaire.
C'est pourquoi les pro-Fillon n'hésitent pas à tempérer le propos.
En effet, la stratégie de François Fillon consiste à élargir le champ au centre, alors que Jean-François Copé préfère viser l'aile droite. De ce fait, l'ancien Premier ministre préfère dénoncer l'existence d'un racisme global qui toucherait diverses communautés, sans en nommer une en particulier. Ses émissaires, à l'image de Valérie Pécresse, dénoncent dans les propos de Jean-François Copé une tentative de division, alors que la campagne doit être le temps des propositions.
La nuance apportée par l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur touche cependant davantage la forme que le fond.
Oui Thomas, l'aile Fillon ne rechigne pas non plus à conquérir les territoires de l'extrême droite. D'après les propos de Valérie Pécresse sur LCI le jeudi 27 septembre, le temps est au rassemblement. Et pour rassembler, elle voit large. Pour rassembler plus de 50% des Français, il faut récupérer les électeurs tentés par le Front National et en même temps ne pas perdre le centre, a-t-elle affirmé sur le même programme. Ainsi, la bataille de l'UMP qui se joue actuellement entre le maire de Meaux et l'ancien Premier ministre révèle surtout un consensus au sein du parti, celui de faire sienne des idées auparavant marquées à l'extrême droite.
Mais au-delà de la convergence d'idées, ce qui se dessine ici, c'est un mimétisme inquiétant.
Exactement, et pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour la pluralité politique. Deuxièmement, parce que la reprise stricto sensu du concept marque une absence de perspective et de réflexion profonde de la part d'un candidat qui souhaite devenir chef du principal parti de la droite française.
Le concept de racisme anti-blanc sous-tend en effet un fond idéologique qui ne peut être ignoré.
Si l'on regarde la définition précise du terme de racisme, souvent utilisé à tout va, on remarque qu'il se réfère à une théorie de la hiérarchie des races.
Elle énonce donc qu'il y aurait une race supérieure à préserver et qui pourrait exercer sa domination sur les autres. Si l'on comprend bien donc, Jean-François Copé considère que les gens de couleur se sentiraient supérieurs à ceux qu'il appelle les blancs. En ne se concentrant que sur cette forme de racisme, le maire de Meaux dit donc sous forme négative que seuls les blancs ne méritent pas cela. En effet, il n'a pas lancé une invective contre toutes les formes de racisme, mais contre une forme de racisme. Par conséquent, il semble faire des blancs une communauté à part qui mérite une attention particulière.
De ce fait, en dénonçant une attitude raciste, il en crée une autre.
Oui, et le propos perd immédiatement de son crédit. Il est clair qu'il ne s'inscrit pas dans une démarche antiraciste globale, mais poursuit plutôt l'idée qu'il existerait un groupe supérieur. Pour rendre son propos plus convaincant, Jean-François Copé aurait alors mieux fait de parler de discrimination envers les Blancs. Dans ce cadre, il désigne une différence de traitement d'un groupe sans préjuger de la valeur essentielle d'aucun.
En outre, Jean-François Copé, en usant cette expression, pose le problème à l'envers.
Il serait judicieux de se demander pourquoi, en France, certains groupes manifestent de l'animosité à l'égard de Blancs ou de Français. Comment peut-on en arriver à un tel paradoxe ?
Or, pour répondre à ces questions, ce sont les causes qu'il faudrait surtout interroger pour obtenir une réponse pertinente.
Alors Mathilde, il ne s'agit pas de refaire l'histoire, mais au moins souligner les faiblesses d'un système qui conduit à ces dérives.
Signalons rapidement, Thomas, qu'en effet, depuis la crise de 1974, le visage de l'immigré a changé. Désormais, les immigrés sont stigmatisés pour leur origine. On les dénonce comme une nouvelle classe dangereuse, au lendemain des violences urbaines qui secouent sporadiquement les banlieues. Et puis les immigrés deviennent ceux qui prennent le travail des bons Français, alors qu'en même temps, le chômage se multiplie pour eux.
Les immigrés sont donc des boucs émissaires faciles en temps de crise.
C'est ça, on n'a pas le temps de réfléchir, alors on accuse. Or, c'est avec cette image des immigrés, créée et répandue dans la société française, que la deuxième génération d'immigrés, née en France, grandit. Il faut ajouter à cela les difficultés qu'elle doit elle-même affronter, telles que l'enclave du quartier ou la discrimination à l'embauche. Voilà pourquoi le coloré s'en prend peut-être au blanc, parce que lui-même s'est d'abord probablement senti relégué alors qu'il avait la même couleur de passeport.
Mais cet état de fait n'excuse rien.
Oui, tout propos discriminant doit être condamné. Seulement la condamnation qui fait avancer n'est pas celle qui met au pilori, qui fustige sans égard. On peut ne pas être étonné d'entendre ce genre de propos au détour d'une conversation de rue ou de café. Mais d'un leader potentiel de parti, on attend plus. On espère une pensée qui propose parce qu'elle a analysé avant le fond du problème. Et puis on souhaite que cet homme dépasse une stratégie politique néfaste et dangereuse au nom d'une simple ambition électorale et d'un appétit présidentiel. À quand, monsieur Copé ?
Blancheur et tremblement, une enquête de Mathilde Férez à retrouver à l'écrit, en version originale, sur la page En Plus de notre site internet. Sans langue de bois, c'est le choix d'entendre s'exprimer toutes les opinions politiques. Place donc maintenant au deuxième éditorial de l'émission et à la plume de Thibaut Sardier, avec qui nous allons revenir sur la situation des universités en France.
Bonjour Thibaut.
Bonjour Thomas. Très sympa ce petit bip bip de jingle.
La BBC.
D'accord, c'est noté. Alors Marie-Ève, Thomas, Mathilde, bonjour à tous les trois. Rebonjour. Et petite question pour commencer, comment s'appelle déjà le ministre de l'Éducation nationale ?
Vincent Payon.
Bien joué. Alors maintenant, question plus difficile.
On
n'a
pas de buzzer, par contre, c'est mal fait ton truc. Hein.
Oui, non, c'est juste une petite question comme ça pour s'amuser. Alors donc, niveau plus difficile, comment s'appelle le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ?
J'ai pas préparé mes pompes là.
Et voilà, un grand silence règne sur le stade. Et bien,
Geneviève Furasso.
Oui, de justesse. C'est bien effectivement.
Je
n'avais
pas mis chronomètre, alors.
Oui, tu avais tout ton temps, Thomas, effectivement. Eh bien, moi, je l'ai appris hier, en préparant cette chronique, qu'il s'agit effectivement de Madame Geneviève Furasso. Il faut dire qu'on a beaucoup entendu parler d'éducation nationale, avec les 60 000 postes et les cours de morale. Donc, logiquement, la question de l'enseignement supérieur et de la recherche est un peu passée à l'as, en tout cas en ce qui me concerne. Et puis, je suis allé à l'université. Voilà, je vous raconte ma vie, mais je donne quelques heures de TD de géographie à des étudiants de licence 1 à la fac depuis quelques jours. Le premier jour, j'ai été accueilli avec les autres vacataires par Madame P, directrice du département de géographie. Puis Madame F, directrice adjointe, nous a fait visiter les locaux. Pendant ce temps, Madame P est allée chercher des cartes de photocopie. Elle a demandé la clé d'un bureau pour nous y installer et a signalé à l'administration que notre salle de cours était en travaux pour une durée indéterminée. Ensuite, avec Madame F, nous avons fait un saut à la bibliothèque de géographie où nous pourrons aller le jour où la bibliothécaire qui part à la retraite sera remplacée. Donc, Madame P et Madame F, enseignantes chercheuses, auront passé leur matinée à gérer une multitude de petits détails pour 4 vacataires de licence 1 de géographie qui enseignent à peine 4 heures par semaine. Quelques jours plus tard, j'ai été convié à une réunion du département de géo. Une petite information y a provoqué un grand débat. Si j'ai bien tout compris, car c'était très technique, la direction de la fac, financièrement autonome depuis la loi LRU, veut imposer un mode de comptabilité strict de la répartition entre cours magistraux et travaux dirigés. Si les professeurs s'y plient, ils seront moins payés. Mais s'ils ne s'y plient pas, la direction rejettera probablement les demandes de création de postes dans le département. Hors des postes, eh bien le département de géo en a bien besoin, avec le départ à la retraite de la bibliothécaire ou encore le congé de maternité d'une des profs, qui n'est évidemment pas remplacé. J'ai aussi appris que nombre de tâches administratives reviennent aux profs, en échange d'une prime dérisoire ou que la moindre modification budgétaire change l'organisation pédagogique des cours. Conclusion, Madame P, Madame F, mais aussi Monsieur S, Madame V, Monsieur L et les autres professeurs deviennent des gestionnaires, des secrétaires, des administratifs, alors qu'ils devraient pouvoir enseigner, chercher, écrire, et pas seulement le soir et le week-end. Mardi dernier, j'ai trouvé dans mon casier de vieux tracts publiés par un syndicat, sans doute après la loi LRU et avant les présidentielles. On pouvait y lire à propos de cette loi LRU et du processus de Bologne, je cite « Le sous-encadrement en enseignants-chercheurs titulaires fait peser sur les enseignants de lourdes charges administratives, laissant peu de temps pour la recherche. » Par le passé, j'avoue avoir souvent considéré ces tracts de syndicats avec une certaine circonspection, sans doute parce que je considérais que ce n'était pas la vraie, la grande politique, celle du consensus et du progrès. Mais il suffit de le voir pour le croire, les enseignants-chercheurs et l'université dans son ensemble ont vraiment du souci à se faire, et ces militants de terrain ont bien raison de nous le souligner. Alors souhaitons que vous tous, chers auditeurs, vous aussi, Thomas, Marie-Ève, Mathilde, vous souviendrez du nom et de la fonction de Madame Geneviève Furasso, que je ne connaissais pas encore hier.
Promis.
Mais surtout qu'elle, elle ne nous oubliera pas.
Merci Thibaut de nous avoir fait découvrir donc la vie de Madame P et Madame F. J'ai pas très bien compris le nom de la bibliothécaire qui va à la retraite. C'est Madame comment, elle ?
C'est une bonne question.
Très bien. Alors il est temps d'exercer notre droit de suite.
Dans la rubrique « Droit de suite », nous vous tenons informés de l'évolution de sujets et de questions que nous avons pu traiter dans de précédents numéros. Parce que le traitement de l'information ne devrait pas se résumer à ce flux tendu où valsent sans retour les sujets.
Ainsi, la semaine dernière, nous vous proposions une enquête réalisée par Mathilde, qui est toujours en plateau, sur la politique culturelle actuelle du gouvernement. Enquête que vous pouvez d'ailleurs lire et relire sur la page en plus de notre site internet.
Or, depuis notre dernier numéro, les chiffres de cette baisse de budget du ministère de la rue de Valois sont connus, n'est-ce pas ?
En effet, Marie-Ève, Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, a dévoilé les comptes de son ministère pour l'année à venir. Et conformément aux directives de redressement des comptes publics qui touchent tous les postes de dépenses, hormis les ministères prioritaires que sont l'éducation, l'intérieur et la justice, son budget est donc en baisse de 2%.
Fini les grands projets, place à l'éducation artistique et culturelle, grande priorité du gouvernement.
« Je veux montrer aux Français, a déclaré la ministre, que la culture n'est pas forcément un ministère dépensier, un ministère du strass, des paillettes et du parisianisme. La culture, ce sont des gens citoyens qui contribuent à l'effort de redressement du pays, mais aussi à l'activité économique, à l'emploi. »
Avec cette citation, c'est l'occasion de rappeler que la culture représente en France 157 000 entreprises, 700 000 salariés et 2,8% du PIB.
Surtout, avec ces mots de la ministre, ainsi qu'avec l'enveloppe de 33,2 millions d'euros pour les parcours artistiques à l'école, avec des moyens en hausse pour l'éducation nationale et plus de bourses, plus 10,8% sur les bourses de l'enseignement supérieur culturel, eh bien, on voit qu'Aurélie Filippetti a fait le choix de privilégier la diffusion de la culture sur l'ensemble du territoire, et notamment auprès des jeunes, plutôt que de soutenir les équipements ou manifestations spectaculaires.
C'est également sur les établissements publics les mieux armés que l'effort porte.
Une décision assez logique, et qui se traduit par une baisse de subventions allant de 1,5 à 2,5% pour une vingtaine d'entre eux. Parmi les plus emblématiques, citons l'Opéra de Paris, le Louvre, le Musée d'Orsay, le Musée du Quai Branly, le Centre des Monuments Nationaux, qui devront s'accommoder de réductions de voilure de 2,5%, ou encore le Centre Pompidou et ses 2% de baisse de subventions.
Mais pour les musées nationaux, ce n'est pas tout.
Non, Marie-Ève, les crédits d'acquisition des musées seront également réduits. L'exposition Monumenta du Grand Palais est pour sa part purement et simplement annulée l'an prochain.
Cependant, les musées et monuments nationaux sont assurés de recevoir en 2013 la compensation financière liée à la mesure de gratuité pour les 18-25 ans. Cela représente 18 millions d'euros, inscrits pour la première fois dans le projet de loi de finances.
En revanche, Marie-Ève, le monde du livre s'en sort pas si mal.
C'est vrai. Librairies indépendantes, projets de numérisation et soutien aux auteurs et à la création littéraire sont au cœur des actions que mènera la rue de Valois. Ainsi, pour les librairies, le ministère, je cite, « poursuivra ses efforts visant à favoriser le maintien d'un réseau dense et diversifié de librairies de qualité sur l'ensemble du territoire, notamment au moyen d'interventions conduites en région par les services déconcentrés, qui représenteront plus d'un million d'euros. » Ce sont également 10 millions d'euros qui seront préservés pour aider la création littéraire. Enfin, la BNF verra ses actions de numérisation soutenues et renforcées.
Droit de suite toujours, mais nous revenons sur un autre sujet que nous avions abordé lors de notre précédent et premier numéro de 100 langues de bois, la création de l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants, pilotée par Jean-Louis Borloo et dont nous soulignons les limites. D'une part parce que la fracture traditionnelle centre-gauche, centre-droit, non résolue, empêchait une véritable union du centre. D'autre part parce que l'UDI devait compter sur la concurrence du MoDem de François Bayrou, si ce dernier ne rejoignait pas le dernier avatar centriste.
Or, en clôture des universités de rentrée du MoDem à Guidel, dans le Morbihan, François Bayrou a montré qu'il croyait toujours en son destin historique et qu'il n'était pas résolu à choisir entre gauche et droite.
Il n'y a pas de centre-gauche, de centre-droit. Le centre n'a pas besoin d'adjectif parce que, sans cela, c'est sa vocation qui disparaît. Il doit se définir par lui-même, a expliqué François Bayrou et d'ajouter « Et ceux qui viennent nous dire que le centre doit forcément être à droite, ils disent que pour eux, le centre n'existe pas vraiment. » Jean-Louis Borloo appréciera.
Le troisième homme de la présidentielle de 2007, décidément en forme, a enfoncé le clou en concluant « Le jour venu, s'il y a plusieurs candidats, eh bien nous organiserons les primaires du centre. Il n'y a que les faibles qui craignent la compétition. On débattra des orientations et le meilleur s'imposera. »
Quand on vous disait que le centre était loin d'avoir résolu cette duel fratricide.
Et on finit cette émission sur une note légère.
Quoi ? Mais pas du tout, Marie-Ève. Nous terminons par la décision politique la plus importante du début du XXIe siècle, par la mesure qui, pour certains, devrait à coup sûr mettre fin à la crise, et qui, pour d'autres, devrait immanquablement assombrir encore un peu plus leur quotidien. Bref, Marie-Ève, nous allons évoquer en cette fin d'émission la disposition qui va bouleverser nos vies.
Désolée, mais je crois que je n'ai pas le bon script, Thomas. On n'était pas censé parler de la hausse de la taxe sur les bières, là ?
Si, si, justement.
Ok.
Allez, Marie-Ève, je sais très bien que quand David Pujadas a interrompu ses programmes en plein après-midi pour présenter un flash spécial pour annoncer cette décision du gouvernement, tu as réagi un peu comme Mademoiselle K au début de la chanson grave.
Bien sûr. Non, je me suis dit en sirotant ma tisane verveinement de camomille tilleul nuit calme qu'il était assez étrange de constater qu'au milieu des mesures annoncées par le gouvernement dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 figurait une hausse de la taxe sur les bières.
Le gouvernement souhaite en effet multiplier par près de 2,5 le droit d'acquise sur la bière, une taxe qui s'applique sur la quantité d'alcool vendue. Cette hausse devrait rapporter 480 millions d'euros à la sécurité sociale selon le gouvernement.
Mais concrètement, qu'est-ce que cela va changer pour les consommateurs ?
Concrètement, sur les terrasses, un demi à 2,50 euros va passer à 3 euros. Et dans les rayons, des grandes surfaces, un pack de bière à 10 euros passera à 12 euros. Une situation d'autant plus sensible pour les étudiants de l'ENS, premier consommateur de bière du 7e arrondissement, en grosse concurrence, certes, avec les supporters de l'OL, consommant régulièrement dans les gradins de Gerland. Alors évidemment, le consommateur idéal de bière dans le 7e serait un normalien supporter de l'OL. Mais c'est assez rare.
Et quelle est la disposition concernant les tisanes au houblon, celles que boit vraiment Marie-Ève ?
Là, c'est trop compliqué pour la question.
Marque déposée, de toute manière.
D'accord.
Bon, et de toute manière, en parlant de supporters de l'OL à l'ENS, si, j'en trouve quand même quelques-uns. Il y a les membres alsaciens de l'AS. Tu les as oubliés, ceux-là, Thomas.
Non, eux, ils sont hors catégorie, Marie-Ève. Mais la Sécurité sociale s'est engagée à prendre en charge à 100% leur cancer du foie à la sortie de l'école, donc quelque part cela compense la hausse de la taxe sur la bière. Hein.
Pour revenir à cette taxe justement, du fabricant au consommateur, en passant par le distributeur et les points de vente, je cite, c'est donc la filière dans son ensemble qui va être touchée. Alerte Laurent Lutzé, président de la Fédération UMI Café Brasserie Établissement de Nuit, qui représente 80 000 entreprises, eh oui. Dans un contexte où le pouvoir d'achat est fragilisé, les syndicats redoutent une baisse de la consommation de la bière et par conséquent la fermeture d'établissements.
Il faut savoir qu'un Français consomme en moyenne 30 litres de bière par an. Ça fait pisser tout ça. Alors du coup, Pascal Chèvremont, délégué général de l'Association des Brasseurs de France, qui compte 96 adhérents, estime à 20% la baisse du chiffre d'affaires pour les cafés et bistrots. D'ailleurs, la dernière augmentation de la taxe sur les brasseurs, qui s'élevait à 36% en 1997, s'était traduite par une baisse des ventes de 7%, a-t-il déclaré solennel à l'AFP.
Bon, on se moque gentiment de cette mesure et de la réaction des patrons de bar en essayant de rester correct, n'est-ce pas Thomas ? Mais le plus drôle dans toute cette affaire, ce sont les proportions qu'elle prend.
Deux députés du Nord, ça s'invente pas, Gérald Darmanin et Bernard Girard...
Tu oublies les Alsaciens.
Oui, ils devaient signer aussi. Ont en effet écrit à l'ancien président de la République, Jacques Chirac, connu pour son amour du houblon, sic, pour dénoncer la taxe sur la bière. Selon eux, la taxe sur la bière, qu'ils décrivent comme inique, après la présenterie de début de texte, va notamment handicaper encore un peu plus les entreprises, bars et brasseries qui, dans les zones frontalières comme la nôtre, écrivent-ils, sont soumises à la concurrence directe de nos amis belges.
Du coup, c'est Jérôme Cahuzac, le ministre du budget, qui a dû justifier cette proposition.
Oui, et on imagine sa surprise. Lui qui ne devait pas s'attendre au milieu des réformes concernant la retraite, les hausses d'impôts, les coupes claires dans certains ministères, à devoir justifier ce point en somme anecdotique.
Mais le ministre a bel et bien dû s'expliquer.
Le ministre a en effet dû rappeler que les droits dits d'acquise sur la bière en France sont parmi les plus faibles de l'Union européenne, précisant qu'ils sont actuellement à, je cite, 3 centimes par hectolitre et par degré. Et même s'ils seront plus que doublés si le projet de loi de financement de la sécurité sociale est accepté, ils resteront plus faibles qu'en Belgique, en Allemagne ou encore aux Pays-Bas. Nous passerons à 8 centimes, a-t-il ajouté, ce qui laisse la France parmi les pays ayant le plus faible taux d'imposition. Autre argument avancé par le gouvernement pour la nouvelle disposition, celui de la santé publique. Le ministère du budget a en effet expliqué qu'il y a une alcoolisation excessive, notamment de la jeunesse, plutôt avec la bière qu'avec le vin.
Bref, vous l'aurez compris, quand vient la crise, ce sont toujours les mêmes qui trinquent.
Notre émission touche à sa fin, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page de l'émission.
Merci à Xavier et Will à la technique, sans qui cette émission n'aurait pas pu se faire. Et je tiens à remercier personnellement Thomas pour son efficacité habituelle et son humour à nul autre pareil.
Je peux rien.
Merci également à Thibaut et à Mathilde. À Mathilde donc pour son aide dans la préparation de l'émission et la rédaction de l'enquête de la semaine.
Alors également sur les ondes de Transistor cette semaine, ne manquez pas le 6e numéro dans Spectateur. Au programme, présentation du prochain spectacle programmé en salle Cantor les 18, 19 et 20 octobre par en scène. Il s'agit de la tragédie Surénade Corneille, mise en scène par la compagnie La Lumineuse. Et également, critique de la pièce Mort d'un commis voyageur, jouée jusqu'au 31 octobre au Théâtre des Célestins.
Sinon, Nina et ses sirènes font leur rentrée, à ne pas manquer.
Nous vous laissons donc en bonne compagnie et nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Sans langue de bois, spécial débat entre militants, piloté par Tatiana Fauconnet. D'ici là, on ne change pas les bonnes habitudes, surtout, n'oubliez pas, gardez l'esprit critique.
Et buvez une bière.